Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre dans cet essai historique et géopolitique. Amin Maalouf examine la crise actuelle des rapports entre l'Occident et les puissances qui ont contesté ou contestent encore sa prééminence. Publié d'abord chez Grasset, puis disponible en poche. Le labyrinthe des égarés ne se limite pas aux commentaires de l'actualité internationale. Il replace les tensions présentes dans une longue séquence de modernisation, de rivalité impériale, de révolution et de guerre. Son enquête s'organise autour de quatre trajectoires nationales, le Japon de l'ère Meiji, la Russie soviétique puis post-soviétique, la Chine contemporaine et les États-Unis. Maalouf étudie à la fois leurs réussites, leurs ambitions et les dérives qui ont compromis leurs promesses historiques. Le titre désigne une humanité incapable, pour l'instant, de trouver un modèle politique et moral crédible face au désordre du monde. L'objectif est moins de distribuer les torts entre blocs que de comprendre les enchaînements ayant conduit à l'impasse actuelle. Afin de rendre pensable une coopération moins aveugle, je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le Japon de Meiji, la première brèche durable dans la suprématie occidentale, Maalouf ouvre sa fresque avec le Japon de l'ère Meiji, car son ascension modifie profondément l'imaginaire politique mondial, en se modernisant rapidement à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Le Japon montre qu'un pays asiatique peut assimiler des techniques, des institutions et une puissance militaire comparable à celle des États européens sans se dissoudre entièrement dans leur modèle culturel. Sa victoire sur la Russie en 1905 possède, dans cette perspective, une portée qui dépasse le cadre militaire. Elle ébranle l'idée selon laquelle la domination des puissances occidentales serait naturellement liée à une supériorité civilisationnelle. Elle nourrit donc des espérances dans de nombreuses sociétés soumises ou marginalisées par l'ordre impérial. Mais Maalouf ne traite pas le Japon comme une simple figure d'émancipation. La réussite accélérée se double d'une logique de puissance. Le pays devient lui-même impérial, conquérant et finalement entraîné dans une catastrophe guerrière. Cette trajectoire rend visible un problème central du livre défié. L'Occident ne garantit nullement l'apparition d'un ordre plus juste. L'adoption des moyens de la puissance occidentale peut aussi reproduire ces violences. Le cas japonais sert ainsi de précédent historique aux ambitions ultérieures de la Russie et de la Chine, tout en avertissant contre l'ivresse nationale et l'illusion qu'une revanche géopolitique vaut, à elle seule, progrès humain. Deuxièmement, l'expérience soviétique, une alternative idéologique devenue impasse politique. La Russie soviétique occupe une place distincte dans le raisonnement de Maalouf. Elle n'a pas seulement rivalisé avec l'Occident sur le terrain stratégique. Elle a prétendu lui opposer une organisation sociale et une vision universelle de l'histoire. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique représente pour de nombreux peuples une force de contestation du capitalisme, de l'impérialisme et de l'ordre dominé par les puissances occidentales. Sa capacité industrielle, militaire et scientifique confirme qu'elle est un adversaire majeur. Pourtant, l'essai insiste sur le coût de cette ambition autoritarisme. Rigidité idéologique et incapacité à corriger durablement les défaillances du système finissent par vider la promesse soviétique de sa crédibilité. L'effondrement de l'URSS ne produit pas pour autant une stabilisation automatique de la Russie ni une intégration pacifiée à l'espace européen. Maalouf invite à considérer les frustrations, les désillusions et les occasions manquées de la période post-soviétique, sans les transformer en justification des entreprises guerrières ultérieures. Cette nuance est essentielle à expliquer une dérive historique ne revient pas à l'excuser. La séquence russe montre surtout qu'un adversaire de l'Occident peut échouer non parce qu'il manque de puissance, mais parce que son modèle politique détruit les ressources morales et institutionnelles nécessaires à sa durée. Elle éclaire aussi la persistance des mémoires de déclassement dans les rapports internationaux contemporains. Troisièmement, la Chine contemporaine, puissance économique. Affirmation nationale et absence de modèle substitutif, dans le livre, la Chine est le défi le plus décisif lancé à la prééminence occidentale au XXIe siècle. Son poids démographique, son développement économique et sa capacité à agir à l'échelle mondiale rendent impossible toute lecture du monde limitée à l'Europe et aux États-Unis. Maalouf s'intéresse à ce que cette montée en puissance signifie pour les sociétés qui ont longtemps subi l'humiliation coloniale ou l'asymétrie des rapports avec l'Occident. Elle prouve qu'un centre de gravité asiatique peut retrouver une influence considérable. Toutefois, il se garde de présenter la Chine comme une solution de rechange achevée aux faiblesses occidentales. Le dynamisme économique et l'efficacité étatique ne répondent pas, à eux seuls, aux questions de liberté politique, de pluralisme, de confiance internationale ou de coopération globale. Le pays incarne donc une contradiction, il conteste avec succès une hégémonie ancienne, mais ne formule pas nécessairement un horizon universel susceptible de rallier durablement l'humanité. Cette distinction évite deux simplifications symétriques. l'idée d'un déclin occidental qui rendrait mécaniquement la Chine exemplaire, et celle d'une Chine réductible à une menace abstraite. Malouf situe plutôt la rivalité dans un contexte de blessures historiques, de calculs de puissance et de dépendance mutuelle. L'enjeu n'est pas de désigner le prochain maître du monde, mais de mesurer les risques d'une compétition entre grandes puissances dépourvues de règles suffisamment partagées. Quatrièmement, les États-Unis du leadership occidental aux responsabilités d'une superpuissance. Les États-Unis ne sont pas traités comme un observateur extérieur du face-à-face entre l'Occident et ses rivaux, mais comme la puissance qui a progressivement assumé le rôle central du camp occidental. Les guerres mondiales, la guerre froide et l'extension de leur influence économique, militaire et culturelle expliquent cette position singulière. Malouf reconnaît ce que le dynamisme américain a pu représenter capacité d'innovation, pragmatisme, énergie collective et aptitude à mobiliser des ressources considérables. Mais cette reconnaissance n'efface ni les erreurs de jugement, ni les formes d'arrogance associées à l'exercice d'une puissance sans équivalent. Le livre interroge notamment la tendance à confondre intérêts nationaux, missions universelles et droit de réorganiser le monde selon ses propres priorités. Une telle posture peut nourrir, chez les adversaires comme chez les alliés, défiance et ressentiment. L'analyse ne verse cependant pas dans l'anti-américanisme, elle montre que l'affaiblissement relatif des États-Unis ne résout rien lorsque les puissances qui les contestent reproduisent ou aggravent les logiques de domination. Le problème est donc structurel autant que national. En plaçant les États-Unis dans la même fresque que le Japon, la Russie et la Chine, Malouf rappelle que toute puissance peut être portée par ses accomplissements puis fragilisée par la démesure. Leur responsabilité présente consiste moins à préserver une hégémonie coûte que coûte qu'à contribuer à des règles de coexistence crédibles. En dernier lieu, le labyrinthe refusait le choix binaire entre déclin occidental et revanche anti-occidentale. La métaphore du labyrinthe synthétise la thèse éthique et politique de l'essai. Pour Malouf, le déclin de l'Occident comporte une réalité, les contradictions de ses interventions, les écarts entre ses principes proclamés et certaines pratiques, ainsi que ses difficultés internes ont entamé son autorité morale. Néanmoins, les régimes et puissances qui dénoncent cette suprématie ne constituent pas, par contraste, une voie de salut évidente. Leurs propres impasses, culte de la force, nationalisme exacerbé, répression ou incapacité à proposer un ordre commun durable, peuvent être plus graves encore. Le livre refuse ainsi le réflexe qui consiste à choisir un camp par hostilité envers l'autre. Cette position n'est pas une neutralité indifférente face au conflit. Elle demande au contraire de distinguer l'analyse des causes, le jugement sur les actes et l'évaluation des conséquences humaines. La coopération devient alors une nécessité pratique plutôt qu'un vœu abstrait. Les crises mondiales ne peuvent être réglées par la seule logique des blocs. Surtout lorsque les sociétés sont liées par l'économie, les technologies, les migrations et les risques environnementaux. Malouf ne fournit pas un programme institutionnel détaillé pour sortir du labyrinthe. Sa contribution est d'abord intellectuelle, restaurer une lucidité historique qui empêche de prendre les humiliations passées, les mythes nationaux ou les succès provisoires pour des guides suffisants de l'avenir. En conclusion, le labyrinthe des égarés s'adresse au lecteur qui cherche un cadre historique pour interpréter les rivalités entre États-Unis, Russie et Chine, sans réduire ses tensions à l'actualité immédiate. Il conviendra particulièrement aux étudiants, aux amateurs d'histoire contemporaine, aux lecteurs de géopolitique et à ceux qui connaissent déjà les essais de Malouf sur les identités, les civilisations et le désordre mondial. Son bénéfice principal est de relier des épisodes souvent étudiés séparément: modernisation japonaise, expérience soviétique, ascension chinoise et leadership américain. Cette mise en relation aide à comprendre que les rapports de puissance sont aussi façonnés par les humiliations collectives, les promesses idéologiques et les erreurs de jugement accumulées au fil des générations. L'ouvrage se distingue des essais géopolitiques centrés sur les seuls rapports de force, les classements économiques ou les scénarios prospectifs. Malouf privilégie une histoire longue, attentive aux représentations morales et aux conséquences humaines des ambitions nationales. Il ne transforme ni l'Occident en coupable unique, ni ses adversaires en contre-modèle mécaniquement vertueux. Cette symétrie critique, associée à une prose accessible, donne à son analyse une portée plus large qu'un commentaire partisan sur le déclin occidental ou la compétition sino-américaine. Le lecteur n'y trouvera pas de solution simple ni de prédiction définitive. Il y gagne plutôt une méthode de vigilance: replacer les conflits dans leur généalogie, refuser les récits de revanche et évaluer toute puissance à l'aune de sa capacité réelle à servir un ordre plus habitable. C'est cette exigence humaniste, sans naïveté, qui fait la singularité du livre. Si vous souhaitez soutenir Amin Malouf, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.